Bonsoir, chers auditeurs.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages.
Janvier oblige et nous ne pouvons pas oublier la nouvelle année qui commence. Notre émission d'aujourd'hui est une recette pour bien commencer 2010. Prenez donc une feuille de papier et un crayon et notez.
Qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde.
Recette classique pour bien commencer l'année. Prenez un grand saladier. Mélangez deux interviews à Julie et à Angeline, deux Françaises qui nous ont raconté leur expérience à Albacete. Versez une nouvelle version d'une journée au solde avec des millinettes à laquelle on a ajouté une pincée d'humour. Incorporez-y nos meilleurs vœux et arrosez cela d'un peu de musique française. Bon appétit. Notre émission aussi est assez animée. En voici la preuve avec les midinettes qui sont allées faire les soldes. Et vous, vous y êtes déjà allées?
Hey, dis, tu viendrais pas avec moi? Je dois faire quelques courses, tu pourrais m'accompagner?
Ben oui, mais qu'est-ce qu'il te faut?
Ben trois fois rien, hein. Je voudrais acheter des faux cils, un rouge à lèvres rouge, une perruque blonde pour me faire un chignon. Ah, j'ai besoin aussi d'une ombre à paupières vertes et violettes. Et aussi un ricil bleu, bleu électrique.
Ben dis donc, c'est carnaval ou quoi?
Ben non, c'est très tendance chez Lagerfeld.
Ouais. Dans le National Geographic, elle se maquille pareil dans les tribus. C'est super tendance chez les papous.
Comme promis, voilà la suite de l'interview de Julie, dont vous avez déjà écouté la première partie en décembre.
Quelles sont les principales différences entre le nord et le sud de la France?
Déjà, le temps, parce que c'est pas une légende, mais dans le nord, il pleut beaucoup. Et alors que dans le sud, on a quand même pas mal de soleil. C'est aussi la mentalité des gens. On dit que dans le nord, les gens sont plus fermés et dans le sud, ils sont plus ouverts.
Bonjour Judith, je m'appelle Jesús. En Espagne, nous avons décidé aussi sur les habitants de différentes régions. On dit, par exemple, que les Andalous sont très sympas, que les Catalans aiment beaucoup l'argent, ou qu'il est très difficile de connaître la vie dans Galicia. Il y a des idées reçues sur les différentes régions françaises.
Oui, on peut dire que oui. Donc, comme je vous disais, on dit que dans le Nord, les gens sont plus fermés, qu'il est plus difficile d'être ami avec une personne du Nord. Mais en contrepartie, une fois qu'on arrive à être ami, c'est une amitié vraie et fidèle. On dit aussi qu'à Paris, les gens sont plus stressés, qu'ils sont toujours en train de courir. Dans le Sud, par contre, on a la réputation d'être... plus cool, plus relax, ça peut même être un défaut parce qu'on dit des fois aussi qu'on est trop lent et qu'on n'a pas très envie de travailler. Et les gens ont aussi la réputation d'être plus fêtards. Certains disent aussi que les Corses sont tous des terroristes et des indépendantistes. Bon, c'est pas très vrai. Il y en a comme partout et il y en a qui ne le sont pas.
Quelles sont les différences que tu trouves entre Marseille et notre ville?
D'abord, la première différence, c'est la mer, parce qu'à Marseille, il y a la mer. Une différence aussi qui est assez frappante, c'est que Marseille est une ville beaucoup plus cosmopolite. Il y a beaucoup plus d'immigration, alors qu'ici, à Albacete, de ce que j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, c'est sûrement dû à l'histoire. Pour ce qui est du climat, pour l'instant, je trouve qu'il est plus ou moins le même. Et par contre, à Marseille et dans la région, il y a plus d'activités à faire, surtout pour explorer le patrimoine culturel. Enfin, parce que de ce que j'ai vu pour l'instant, à Albacete, il n'y a pas beaucoup de choses à visiter.
Quelles sont les ressources économiques de Marseille?
Les ressources, bon, même j'en suis pas très sûre, mais il y a une centrale nucléaire mondiale qui s'appelle ITER, que vous en avez entendu parler. Et surtout le port maritime, qui est le premier port français, le premier port de la Méditerranée en nombre de voyageurs, et qui est le troisième port pétrolier mondial. Je pense que c'est. Et il y a aussi. Je pense que la culture est une ressource importante, parce que Marseille a été choisie pour être capitale européenne de la culture en 2013.
Explique-nous le système éducatif français.
Alors, on commence par la maternelle, qui accueille des enfants de 3 à 6 ans. Les enfants ne sont pas obligés d'y aller, mais c'est conseillé. Après, nous avons le primaire, l'école primaire, où les enfants ont entre 6 et 12 ans. Donc, c'est là où on commence à apprendre à lire, à écrire. Après, les enfants vont au collège, entre 12 et 16 ans. À partir de 16 ans, la scolarité n'est plus obligatoire. C'est au collège où on commence les langues étrangères, même si en primaire, maintenant, on a quelques notions d'anglais. Les langues étrangères principales, c'est l'anglais en premier. Après, il y a pas mal d'élèves qui font allemand, espagnol et italien. À 16 ans, la plupart des élèves vont au lycée, de 16 à 18 ans. Et si on choisit cette voie-là, on peut passer le bac à lauréat, qui se décompose en trois filières, la filière littéraire, la filière scientifique et la filière économique. Et il y a aussi les filières techniques. Et après le collège, au lieu d'aller au lycée, on peut choisir la voie professionnelle et passer le BEP, le CAP. Le BEP et le CAP, c'est pour se spécialiser directement dans un métier. Donc on peut choisir par exemple BEP vente, CAP coiffure, CAP esthétique. Enfin, c'est une voie directement professionnelle qui comporte beaucoup de stages. En CAP, les élèves sont aussi salariés. Voilà, et après le bac, on peut aller soit à l'université, soit faire un BTS. Donc le BTS, c'est pareil, c'est une voie professionnelle où l'étudiant a une partie à l'école, une partie en stage.
Si tu devais choisir un autre lieu où habiter, lequel choisirais-tu?
Je trouve que Albacete est une ville très pratique pour y vivre parce que c'est une ville moyenne où on peut tout trouver. Tout est à proximité, donc moi j'y suis bien. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, enfin, j'aurais peut-être préféré quelque chose où il y a un patrimoine culturel un peu plus important, plus de choses à visiter. Mais comme par exemple Barcelone, Madrid ou Valence, ou les villes d'Andalousie. Mais sinon, Albacete me.
Quels sont les Espagnols les plus connus en France?
Penélope et Monica Cruz, Pedro Almodóvar, Julio Iglesias, Antonio Banderas et le groupe Mecano fait des chansons aussi en français.
Quels sont tes mots préférés en espagnol et pourquoi?
J'aime bien le mot soledad, pas pour ce qu'il signifie. J'avais entendu quelqu'un qui portait ce prénom et je trouvais ça très joli. J'aime bien aussi lunar, que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Je sais pas, c'est un mot un peu bizarre, parce que ça fait penser à la lune, mais en même temps. Et j'aime bien aussi estrella, peut-être pour la signification et pour comme ça sonne.
Et maintenant, à la une de l'actualité francophone, écoutons quelques-unes des nouvelles les plus importantes arrivées en ce mois de janvier, présentées par notre classe de 6e.
À
Haïti, la catastrophe sur la toile. Les premières photos de la catastrophe ont circulé via Twitter grâce à un animateur de la radio haïtien sur son compte http://twitter.com/CarelPedre. Karel Pedre a posté des messages sans arrêt depuis les premières secousses, mardi le 12. « Je suis triste, le pays n'avait pas besoin de ça », écrivait-il vers 1h30 mardi dans la nuit. À 4h30, c'est un appel déchirant qu'il lançait. « We need help ». Il est l'une des rares personnes que les médias aient pu interviewer depuis ce mercredi matin via Skype, le site de téléphonie par Internet. Alors qu'il était interrogé par visioconférence, une nouvelle secousse s'est produite. Ça saute, on vient tout juste d'avoir une autre secousse. Waouh, c'est la peur qui règne, on est faible, on n'a pas les moyens de réagir, d'évacuer tout le monde. Il y a des gens qui meurent là, lançait l'animateur, désespéré.
La France rend à l'Égypte 5 fragments de peinture murale de plus de 3500 ans d'antiquité. La cérémonie officielle de cette restitution s'est déroulée à l'Élysée le 14 décembre 2009 et elle a eu pour protagoniste le président Sarkozy et son homologue le président égyptien Hosni Moubarak, celui-ci en visite officielle en France. Tout a commencé début 2008, suite à la découverte de la nécropole d'un certain Tétéki, prince de la 18e dynastie du Nouvel Empire, et à la constatation que les peintures murales avaient déjà été arrachées lors d'une fouille archéologique antérieure. Le Conseil national des antiquités du gouvernement égyptien a décidé de mener une enquête dans le but de trouver ces fresques. Elles ont finalement été trouvées parmi les fonds du musée du Louvre. Par conséquent, le gouvernement égyptien a formulé la réclamation correspondante au gouvernement français. Aussi, le ministère de la Culture a-t-il décidé de les rendre à leurs véritables propriétaires.
Pour oublier un peu la neige et le froid, allongeons-nous sous le soleil d'Algérie avec la chanson de Cabrel, Saïd et Mohamed.
C'est donc en musique que notre émission s'achève. Nos meilleurs vœux 2010 et merci pour votre fidélité. À bientôt.
Elle changeait les draps de l'hôtel, les traces de doigts sur les poubelles, petite hirondelle. Au milieu des corbeaux, elle chantait Desperado. Moi j'avais du retard sur le sommeil, je m'étais fait doubler par le soleil. Elle, de l'autre côté du couloir, elle faisait chanter les miroirs. J'ai passé une heure de sa vie, une heure sous le soleil d'Algérie, sous la course des planètes. Y'a des moments qu'on regrette. Derrière ses paupières mi-closes, je voyais plus de gris que de rose. Quand je suis parti, j'ai bien compris que je perdais quelque chose. Ces enfants qui font rien à l'école et qui ont les poches pleines de tubes de colle, de toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en ton ondulé pour toujours, c'est la fenêtre sur la troisième cour, c'est le cri des voisines, plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil. Et s'il y a quelqu'un autour qui comprend, avant que ses paupières n'explosent, qu'elles ne prennent ce gris en overdose. Car je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose. marche parce que t'as vu les photos qui dérangent. T'envoies 10 francs pour les enfants d'ailleurs parce que t'as vu les photos qui font peur et elles que tu croises en bas de chez toi. Depuis, je suis retourné à Marseille. Ses amis n'ont pas de nouvelles. Il y a trop d'hirondelles, il y a trop de corbeaux. Elle a dû changer de ghetto. Moi, je crois plutôt qu'elle change les draps de notre hôtel. D'autres traces de doigts sur d'autres poils.